Alors, on m'a demandé d'introduire d'une certaine façon le débat en tant que vice-présidente de la LDH pour donner la position de la LDH. Alors, je ne suis pas sûre que la position que la LDH ait une position sur la thématique telle qu'elle est posée. Vous m'entendez pas assez ? Si, ça va ? Non, parce que je sais que j'ai souvent du mal à poser ma voix au début. Je dirais que, comme avec beaucoup d'autres, nous sommes inquiets à 85 jours, c'est ça, des élections européennes. Même si la participation s'annonce, d'après les sondages, et il faut toujours se méfier des sondages, mais plus élevé que la dernière fois.
Encore plus élevé, parce que ça
mais,
monte.
Mais non, la dernière fois, ça avait baissé. En 2019, ça a légèrement baissé, et donc qui a été à un niveau historiquement bas, 2019. Donc c'est plutôt en progression forte, mais on peut craindre que ceux qui se mobilisent le plus soient les électeurs qui ne soient pas forcément attachés à la démocratie européenne, enfin dont les représentants ne seront pas forcément attachés à la démocratie. Et nous, parmi nos fondamentaux, on défend la démocratie, l'état de droit et les droits et libertés fondamentales, pour reprendre le vocabulaire européen. Effectivement, quand on regarde les sondages là sur les différents partis politiques, l'extrême droite est très nettement devant l'ensemble des autres grandes organisations politiques, y compris le parti la gouvernemental, qui pourtant s'est fait un chantre à la fois de la lutte contre l'extrême droite et de la lutte pour les questions européennes. Et puis de nombreuses autres organisations, on va dire, se situent entre 5 et 12%, parce que selon les sondages, il y en a plein. Mais ça veut dire qu'il va y avoir un énorme éparpillement des voix, et que cet énorme éparpillement des voix va conduire, compte tenu du mode de scrutin en France, à éliminer un certain nombre de gens de listes, ce qui veut dire qu'il y aura encore plus d'électorats, de députés du Rassemblement National. Excusez-moi d'être un peu dans la cuisine, mais j'ai un peu vécu ça, et je suis effectivement très inquiète par rapport à ce qui va se passer sur la question de l'extrême droite, au-delà de mon mandat personnel. Cette montée de l'extrême droite, malheureusement, elle touche quasiment la totalité des pays européens. Et on l'a vu encore ce week-end avec ce qui vient de se passer au Portugal. Mais ça a été le cas dans beaucoup d'autres pays en Europe, notamment avec... Je vais faire une petite parenthèse là-dessus, peut-être, ça aussi c'est mon vécu européen. On a du mal, quand on regarde les différentes formations politiques qu'on appelle d'extrême droite en France, à les repérer au niveau européen. Parce que selon les histoires des pays, alors peut-être que certains d'entre vous y reviendront, parce qu'il y a la grande fracture européenne aujourd'hui dans l'extrême droite, c'est la fracture pro-russe et anti-européenne d'un côté, et au contraire, j'allais dire pro-européen et anti-russe, c'est vraiment à la louche. C'est donc le groupe conservateur qui a été fondé par les Britanniques, et c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux dans leur vie d'ailleurs, et les Polonais, par anti-européanisme face à la montée du courant Brexit. Et aujourd'hui, il y a des gens les plus variés dans ce groupe-là. Notamment, donc les Polonais du PiS, ils sont toujours. C'est eux qui sont la formation la plus importante de ce groupe politique. Mais il y a aussi Madame Belloni. Et il y a désormais M. Nicolas Bebe, donc élu sur la liste du Rassemblement National, mais zémouriste, et qui sera réélu probablement sur la liste de M. Zemmour. Donc Ça veut dire que quand on dit extrême droite, ça ne veut pas dire forcément des gens qui seront dans le groupe que l'on pense de l'extrême droite au Parlement européen. Et ça veut dire d'ailleurs que ça va tirer d'une certaine façon l'ensemble de... Je ne sais pas si vous allez faire très technique ou un peu politique, mais ça va continuer à tirer la droite européenne vers des alliances différentes de celles qui dominaient aujourd'hui, avec majoritairement, alors c'est plus pas aussi facile qu'on veut le dire sur les alliances au fur et à mesure au sein du Parlement européen, mais quand même sur les grands sujets, il y a une alliance traditionnelle entre les socialistes, les libéraux et la droite traditionnelle. Or ça, c'est en train de bouger. Et notamment parce qu'il y a une partie de la droite européenne qui se radicalise, excusez-moi cette expression. On l'a vu, par exemple, avec M. Orban, qui était au Parti populaire européen, et qui n'a été exclu du groupe du Parti populaire européen qu'en 2021, et qui donc siège aujourd'hui dans ce fameux groupe conservateur. Donc on a donc un échiquier politique qui dérive petit à petit, et donc il peut y avoir encore des recompositions lors des prochaines élections, et il va falloir regarder ça de très très près. Alors moi qui ai été députée européenne de 2009 à 2019, j'ai vu ces recompositions. Au fur et à mesure, on voyait les gens qui quittaient le PPE, qui allaient au groupe conservateur, ou qui quittaient le groupe, alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui était le groupe créé par le champion du Brexit.
ECR, par...
Non, le... Il avait créé un groupe parce qu'il ne voulait pas faire un groupe avec l'extrême droite. Donc il y avait des gens de ce groupe qui quittaient ce groupe pour aller vers l'ECR, et puis d'autres qui faisaient le chemin inverse. Et il y a des gens qui ont été élus sur la liste du Rassemblement national, notamment, qui chaque fois quittent le Rassemblement national pour aller dans d'autres groupes. On l'a vu à plusieurs reprises. Mais cette dérive que l'on voit, elle est, et c'est pour ça que j'ai voulu dire ça d'abord, elle joue aussi sur les sujets qui sont ceux de la qui sont chers à la LDH et qui sont ceux de la démocratie, de l'état de droit et de la défense des droits et libertés. Les dérives, par exemple, qui ont commencé avec la Hongrie dès 2011, quand M. Orban a été réélu en Hongrie, puis avec le PiS en Pologne, n'ont pas été condamnées de façon suffisante, alors par le PPE bien évidemment, mais aussi par l'ensemble des institutions européennes, qui n'a pas réagi à la hauteur de ce qui aurait pu être fait, ne serait-ce que... Alors, c'est toujours très compliqué parce que l'exclusion d'un pays, les sanctions lourdes contre un État membre sont très difficiles à prononcer, et qu'à partir du moment où il y avait la Hongrie et la Pologne qui pouvaient faire un bloc, eh bien, il n'y avait plus personne qui pouvait être condamné au titre de l'article 7 des traités, qui est la seule possibilité. Mais si ça avait été fait avant, ne serait-ce que de façon symbolique, on aurait probablement... Alors, je rêve peut-être quand je dis que ça aurait pu éviter ces dérives, mais c'est ma façon de voir, c'est ce que j'ai vécu, notamment avec des batailles qui ont été difficiles, mais dans lesquelles il y avait y compris un certain nombre de parlementaires de la droite classique attachés à la question de la démocratie et de l'état de droit, qui étaient prêts à bouger. Après, il y a les règles au sein du Conseil européen qui font que on n'arrive pas à changer les choses. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, plutôt que démocratie oubliée, je dirais plutôt démocratie inachevée et démocratie menacée aujourd'hui, de plus en plus menacée à l'intérieur de, de l'Union européenne. Parce que je pense qu'au moment du vote de Maastricht, au moment où on a mis en place cet espace de justice, de liberté et de sécurité après le sommet de Tampere, si ma mémoire est bonne, en 1999, on a fait avancer un certain nombre de choses vers une démocratie européenne. Pas suffisamment, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui se sont qui auraient permis d'avancer sur un chemin plus favorable à la façon dont je pense que nous avons tous à peu près en commun sur cet axe démocratie, état de droit et liberté et droits fondamentaux. Je vais citer notamment trois exemples qui me paraissent les éléments les plus visibles dans cette construction de la démocratie européenne. Des éléments qui sont tous les trois insuffisants, mais qui sont intéressants à analyser. Le premier, c'est bien évidemment l'adoption de la Charte européenne des droits fondamentaux. Ça a été une avancée considérable et ça reste une avancée considérable, notamment parce que la Cour de justice de l'Union européenne, et nous faisons de plus en plus de recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, se saisit de plus en plus de la Charte des droits fondamentaux et on arrive à obtenir des décisions du point de vue de la Cour de justice de l'Union européenne, ce qui est des condamnations plus fortes, je vais le dire comme ça, que celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a souvent a une absence de pouvoir contraignant, alors que la Cour de justice de l'Union européenne, elle, a plus de possibilités d'intervenir. La compétence de la Cour de justice de l'Union européenne, elle reste centrée sur le droit européen. Ça, c'est la construction même de l'Union européenne. Et donc, avec des possibilités qui restent limitées. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est l'initiative citoyenne européenne. L'initiative européenne, elle a été mise en avant notamment au moment du traité de Lisbonne, comme étant le modèle de la démocratie participative en Europe. Alors, c'est un peu vrai, mais en même temps, ça reste très limité. Pourquoi c'est très limité ? Parce que c'est très compliqué à mettre en œuvre. C'est très compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut qu'un groupe de personnes appartenant à sept pays puisse lancer l'initiative. Je vous la fais courte, hein, parce que appartenant à sept pays puisse permettre de réunir 1 million de signatures avec des quotas par pays qui, au prorata de la population, ce qui est assez normal. Mais les initiatives, et c'est aussi un des sujets. C'est la méconnaissance du fonctionnement des institutions européennes. La plupart des initiatives, elles existent dans un pays et elles ont du mal à se développer dans d'autres pays. Et c'est particulièrement vrai en France. Moi, je vois régulièrement des initiatives citoyennes européennes qu'on nous demande de soutenir. En général, on le fait, mais on sait très bien que vu comment elle a démarré, cette initiative citoyenne, elle ne franchira jamais le cap du million de signataires. Et dans sept pays, ce qui est normal d'ailleurs, hein, c'est pas fait l'Union européenne, elle n'est pas faite pour trancher des débats franco-français, elle est faite pour faire avancer un certain nombre de questions européennes. Et la deuxième limite de l'initiative citoyenne européenne, c'est pas tellement d'ailleurs le fait que la Commission européenne en bloc, parce que je pense qu'avec l'habitude qui se prend, finalement, il y a de plus en plus d'initiatives qui sont validées par la Commission européenne. Mais c'est la façon dont la Commission européenne s'en saisit après. Parce que même si depuis 2019, il y a un débat quasiment systématique au Parlement européen qui donne quand même de la visibilité à ces initiatives, la Commission reste seule compétente pour agir, et notamment quand il y a une initiative législative, par rapport au contenu d'une initiative citoyenne européenne. Et malheureusement, quand on lit, je vous invite à aller voir sur Internet, faire initiative citoyenne européenne sur le site des institutions européennes, vous verrez que les réponses de la Commission sont quand même des réponses qui ont tendance à renvoyer les citoyens dans leur clou, si je puis dire, ce qui n'est quand même pas juste. Enfin, qui n'est pas normal à partir du moment où il y a eu un vrai débat citoyen. Ça ne veut pas dire que les institutions ne doivent pas travailler, mais normalement, qu'on reste dans le fonctionnement. Mais c'est vraiment des réponses qui sont dilatoires. Et je ne vous parle même pas de l'initiative citoyenne européenne qui avait été lancée sur la question du glyphosate, parce qu'on a failli avoir des avancées, mais au fur et à mesure que le temps s'avance et que les... la période pour laquelle l'interdiction devrait être mise en place, eh ben on la reporte sous la pression du lobby agricole. Je ne me lancerai pas dans la question des lobbies, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne voudrait le dire. Et la troisième dimension sur laquelle je voulais insister, c'est la question de la citoyenneté européenne. À la LDH, il n'y a pas de démocratie sans citoyenneté, et la citoyenneté n'est pas qu'une citoyenneté politique. Mais néanmoins, cette construction de la citoyenneté européenne est un élément important. Mais là encore, avec beaucoup de limites. Pourquoi ? Parce que bien qu'on dise que la citoyenneté européenne s'ajoute aux citoyennetés nationales, en réalité, ce n'est qu'une addition des citoyennetés nationales. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de différences selon les pays, puisque le droit de la nationalité n'est pas le même selon les pays, le droit de vote n'est pas le même selon les pays, y compris parce que des pays sont pour la citoyenneté de résidence, hein, notamment pour tous ceux même qui n'ont pas la nationalité française puissent voter là où ils résident, et que ça ne soit pas réservé aux citoyens européens. Il y a un certain nombre de pays, notamment les pays du Nord, qui ont aligné c'est le traité de Maastricht, je crois, la citoyenneté européenne, oui, je crois.
Première mention, oui.
Donc quand la citoyenneté européenne a été créée, ils ont aligner le droit de vote pour tous les étrangers vivant sur le territoire européen ou non européen. Et pour ne pas créer de différence entre les étrangers qui vivent sur leur territoire. Et nous sommes favorables à cette conception de la citoyenneté. Et puis, nous sommes, bien évidemment, je vous disais, la citoyenneté, ce n'est pas que la citoyenneté politique, ça ne se limite pas au droit de vote, c'est aussi la reconnaissance et la façon de se mobiliser de la société civile. Et nous croyons à la Ligue des droits de l'homme, et nous allons continuer à nous battre pour ça, que la démocratie, la sauvegarde de la démocratie, c'est l'œuvre des citoyens. Ça ne pourra être que l'œuvre des citoyens et des citoyennes. Et que, vous me permettrez de conclure là, par rapport à la montée du Rassemblement national, de l'extrême droite en général, le meilleur moyen, c'est d'aller voter pour qui on veut, mais d'aller voter pour que les scores de l'extrême droite soient le moins élevés possible, parce que moins il y aura de gens qui iront voter pour d'autres listes, plus leur score proportionnellement sera élevé. Voilà.